Monsieur Max Boumaoko, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez fait comme constat, comme expérience sur l'écoute de Radio Ndekeluka dans la localité?
Ici, dans la localité de Boda, je dirais que le constat est amer. Amer parce que quand on a un poste récepteur ici à Boda pour capter les fréquences, c'est un peu difficile. C'est un constat amer que nous faisons dans la localité de Boda par rapport à l'écoute de Radio Ndekeluka. Pour mieux écouter Radio Ndekeluka, il va falloir prendre une bombe de Chine, mettre un peu de fer au bout pour pouvoir accompagner d'un petit fer jusqu'à l'antenne du poste récepteur, et c'est en ce moment-là qu'on peut quand même l'écouter un peu.
Qu'est-ce que ces difficultés d'écoute de Radio Ndekeluka entraînent comme impact négatif sur la vie de la population et de la société?
Lorsqu'on est dans une localité et qu'on est privé des informations, c'est grave. La population a besoin de savoir ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe à Bangui, ce qui se passe sur toute l'étendue du territoire et ce qui se passe chez lui-même.
Par exemple, la jeunesse de Boda, par manque d'informations, de sensibilisation à la radio, la masse n'est pas touchée. En quoi cela peut-il affecter le comportement des jeunes?
Sur la prise de chambre indienne, par exemple, il y a des émissions qui s'organisent de temps à autre sur les ondes, soit sur la radio centrale, soit pour les radios que j'ai souvent écoutées lorsque je suis à Bangui. Ces émissions-là amènent la jeunesse à pouvoir bien se comporter comme étant un bon citoyen. Ici, c'est un danger pour la population, c'est un danger pour la jeunesse parce qu'elle est sous-informée, elle n'écoute pas la sensibilisation, elle fait des choses à leur tête, à leur niveau, et que surtout sur l'éducation d'abord pour notre jeunesse, ça entraîne la délinquance.
Par exemple, au niveau du marché, on a vu quelques jeunes avec des comprimés de chacapin et qui le prenaient au vu et au su du public. Qu'est-ce que vous en dites?
Ce comportement-là, c'est au quotidien ici à Boda. Nous, les autorités de Boda, avons déploré ce type de comportement. Non seulement chacapin, il y a aussi les chambres dont j'avais énuméré ici. Cette pratique, je vous dis que la jeunesse de Boda le fait au vu et au su de tout le monde sans inquiétude. Sans inquiétude, parce qu'il n'y a pas une sensibilisation réelle par rapport à ça. Si évidemment la radio était bien écoutée ici, ça va vraiment transformer cette mentalité-là. C'est vrai que nous avons le procureur qui est ici, nous avons le président du tribunal qui est là, nous avons le service des consommateurs de l'État qui est là, mais à nous, ça ne suffit pas. Il va falloir que cette jeunesse soit d'abord éduquée, sensibilisée, surtout
à la radio,
bien sûr, afin de lui permettre de changer de comportement.
Pour vous informer de certaines situations à Bangui, dans les autres villes de la RCA, qu'est-ce que vous faites?
Parfois, c'est avec le téléphone que nous nous informons. Quelque chose que nous ne pouvons pas écouter à la radio, il va falloir appeler les parents, appeler les amis et connaissances là-bas pour pouvoir nous informer. Ce n'est pas digne. Cette situation-là, c'est révolue. Nous avons la radio qui est là. Nous avons notre radio préférée qui est là. Nous avons besoin d'écouter la radio afin de nous permettre de nous informer. Avec le téléphone, mais la personne ne va pas dire tout ce qui se passe de manière exacte parce qu'on est limité par le crédit, on est limité par le côté autre. Là, vraiment.
Parfois, les problèmes de réseau.
Ouais, parfois, les problèmes de réseau, que la qualité n'est pas bien également. C'est tout ça. Pour que nous soyons bien rassurés, il va falloir que nous écoutons notre radio, qui est la radio Ndekeluka, afin de nous permettre de bien s'informer et d'écouter les émissions. Au niveau des chefs hiérarchiques, c'est-à-dire les responsables des différentes stations, surtout Radio Ndekeluka, pour faire de leur mieux afin d'améliorer la qualité d'écoute pour que nous soyons vraiment informés.
Les différentes communautés de Boda ont célébré le dimanche 11 novembre un culte d'action de grâce à la mairie.
De quoi s'agit-il?
Il s'agit d'un culte d'action de grâce. Les différents pasteurs, les imams, les prêtres, ils se sont rencontrés pour organiser un culte d'action de grâce, pour rendre grâce à Dieu de tout ce que Dieu leur a fait dans leur localité à Boda. Il y avait eu des soubresauts, des tiraillements parmi la population. Les gens se sont tués, la population de Boda, c'est-à-dire les deux communautés, chrétiens et musulmans, se sont rencontrés pour dialoguer entre eux. Quand vous arrivez à Boda, il n'y a plus question de parler encore de cohésion sociale ou autre. Les chrétiens vivent à part, les musulmans vivent à part, non. Il y a toute une symbiose présentement. Il y a un vivre ensemble. C'est par rapport à ça que cette population elle-même, elle a dit, non mais on s'est longtemps tué, on a beaucoup curulé. Il est temps maintenant de mettre fin à tout ça, de nous unir pour rendre maintenant grâce à Dieu. Le chrétien va dans la communauté musulmane fréquente la communauté chrétienne, ils vont ensemble dans les chantiers de diamants, ils vendent ensemble dans le marché, disons merci à Dieu d'avoir fait de nous cette union-là.
La ville de Boda a retrouvé une véritable cohésion sociale depuis longtemps. Pourquoi la ville demeure encore dans l'insalubrité totale? Votre résidence envahie par les broussailles en est une belle illustration.
La ville de Boda est envahie d'herbe, effectivement, parce que nous sommes à la saison pluvieuse. religieuse. À chaque fois que la mairie s'évertue pour pouvoir désherber cette ville-là, aussitôt, les chicots remplacent. C'est par rapport à ça que vous avez constaté que vraiment cette ville-là est envahie d'herbes. Par rapport aux préparatifs de la fête du 1er décembre, là, on s'est évertué avec la jeunesse, la confession religieuse, mais toute la population. Nous tous, nous sommes mobilisés pour pouvoir mettre hors d'usage ces herbes-là. Les rues, les avenues sont en train maintenant d'être désherbées par la population.
Qu'est-ce que vous ferez, vous, en tant que sous-préfet, pour savoir que les instructions que vous avez données au chef de quartier ont été vraiment exécutées?
Chaque samedi, je sors avec mon équipe pour pouvoir vérifier, toucher du doigt le message que j'ai passé à la population pour voir si est-ce que c'est exécuté ou pas. Le samedi passé, là, nous sommes sortis sur le terrain et on a vu que vraiment, ils ont pu exécuter nos ordres et ils sont en train de le faire.
Il y a 2 ans, la MINUSCA de Boda se plaignait du fait que le manque de véhicules l'empêchait de bien sécuriser la localité. Aujourd'hui, cette mission onusienne n'est pas visible à Boda. Pourquoi?
La mission onusienne n'est plus visible parce que auparavant, Boda était classé selon les MINUSCA dans la zone rouge. C'est que c'est là où il y avait des atrocités, il y avait du tuerie ou autre. Là, on appelle ça la zone rouge par rapport à leur terme là-bas. Mais maintenant, suite à un dialogue entre les deux communautés, on assiste maintenant à un calme normal dans la ville. Il y a la sécurité, il y a le vivre ensemble. Boda a maintenant un autre visage qui est la zone verte. La zone verte, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'insécurité. C'est par rapport à ça que la MINUSCA est rentrée sur Bangui.
Depuis 5 ans, les transporteurs et voyageurs déplorent la dégradation très avancée de la route Mbaïki-Boda. Des gros véhicules couchés que nous avons constaté en chemin explique le drame que cette mauvaise route impose à la population. Pourquoi le gouvernement et les partenaires au développement ne réagissent pas à cette situation?
Cette situation a daté depuis longtemps. Concernant l'axe Mbaïki-Boda, le gouvernement est très bien au courant de cette situation. Présentement, on est en train d'arranger l'axe Sibut-Dumari-Dumari-Bambari. Dès qu'ils finissent là-bas, ils vont retourner ici chez nous à Boda. C'est même sur le bureau du gouvernement en train de décider. Le Premier ministre m'avait bien rassuré que dès qu'ils finissent avec le tronçon Dumari-Bambari, ce projet-là va retourner vers Boda pour pouvoir arranger l'axe Boda-Mbaïki et Boda-Ngoto. Ce sont ces axes-là qui sont vraiment en état de dégradation avancée. Nous avons dit que, bon, mais en attendant cette situation, est-ce qu'il est question que la population reste bras croisés et attende le gouvernement? C'est pourquoi on avait organisé une réunion avec les chefs du quartier, la mairie, pour que nous puissions mettre cette route-là en état. En cherchant des cailloux, des brouettes, des graviers, nous pouvons dire que, bon, mais aujourd'hui, on va faire peut-être 100 mètres. Le lendemain, ainsi de suite. Et petit à petit, j'espère que nous allons sortir cette route-là en état normal.
En attendant l'arrivée de ce projet, est-ce que vous ne craignez pas des accidents routiers avec des pertes en vie humaine?
Mais les accidents routiers, c'est régulier ici. Il ne se passe pas un jour, mais moi qui vous parle là, en venant ici à Boda, j'ai eu à faire un accident. Cet accident, c'est au quotidien. Et pourtant, on peut avoir des investisseurs qui peuvent venir s'implanter à Boda, mais c'est à cause de la route que les faits découragés. Cela nous préoccupe tous. On va faire de notre premier petit à petit avec le peu que nous avons pour pouvoir mettre cette route-là en état.
Max Bomaoko, vous êtes sous-préfet de Boda. Quelles sont les difficultés auxquelles la sous-préfecture se trouve confronté?
La sous-préfecture ne dispose d'aucun moyen locomotive, d'aucun moyen de déplacement. Le sous-préfet, pour se déplacer, il faut qu'il se déplace à bord d'un taxi-moto. Même s'il faut aller économiser les chefs de quartier, je me déplace soit à pied ou soit toujours à bord d'un taxi-moto. Vraiment, c'est regrettable pour les journalistes. Ce n'est même pas dit pour un sous-préfet de se déplacer comme ça, parce que c'est la toute première autorité de l'État. Je dirais même que c'est la présidence en miniature. Malheureusement, la condition avec laquelle nous travaillons, c'est très déplorable. Ça ne reflète même pas la sous-préfecture. Je lance également ce cri d'alarme là à l'endroit du gouvernement pour que vraiment il puisse quand même voler au secours la sous-préfecture de Boda qui manque le moyen du transport, les fournitures de bureau en général. Il faut que l'argent sorte de ma poche. Même pour saisir un papier là, un texte, il va falloir envoyer mon désespoir au niveau de l'ONG à Lima. C'est pas digne d'une sous-préfecture pour que les papiers de l'État, du secteur d'État puissent être divulgués.
Monsieur Max Bomaoko, je vous remercie.